France Inter.
Permettez-moi tout d'abord d'avoir une pensée toute personnelle pour ma famille qui me fait le plaisir de partager ce moment particulier. Nous aurions pu par facilité ne rien faire ou supprimer des services. Nous avons préféré faire le choix de l'ambition, l'audace, afin de créer les conditions d'une ville attractive où il fait bon vivre. C'est le rêve d'une ville à la campagne et c'est tout le sens de mon engagement.
C'est le tout premier conseil municipal de la maire il y a 3 ans. Cette petite ville à la campagne dans l'Yonne, c'est Avallon. Cette semaine, Jamila Absaoui a donc été mise en examen et incarcérée comme deux de ses frères. 70 kilos de cannabis, près d'un kilo de cocaïne découvert principalement à son domicile, avec 7 143 € en espèces et 2 lingots d'or. Qui est coupable? Qui est innocent? L'enquête est en cours, mais c'est le moment de rappeler que, ville ou campagne, le trafic de stupéfiants explose en France. Aucun problème d'offre. Résine de cannabis, héroïne, cocaïne, tout est disponible partout sur le territoire et même lorsqu'il y a de grosses saisies, on ne voit pas le prix de détail augmenter sur le marché. Ce qui laisse penser que la production est en croissance. Regardez par exemple du côté de la Colombie, les champs de coca se multiplient. Comme chez nous, les entreprises de la pègre. Il y a bien sûr là-bas les producteurs, et puis chez nous, il y a les importateurs qui vendent en gros, et puis les réseaux de détail. Et vous connaissez la vente à domicile, la pub sur le portable. Il y a aussi, en avez-vous entendu parler, les graphistes et les designers qui travaillent sur les emballages et le marketing. Le marché des drogues illégales dans toute l'Union européenne atteindrait désormais 31 milliards d'euros. Une bonne partie passe par les grands ports. Anvers, Rotterdam, Le Havre, seul 1,5% de tous les conteneurs qui arrivent sont contrôlés. C'est exactement l'objectif recherché par les ports, par les gouvernants. Moins de contrôle, plus de rapidité pour être toujours plus attractif que le voisin, pour que le commerce soit plus fluide. Oui, comme l'explique l'économiste Clotilde Champérache, comprendre l'économie du crime, c'est aussi et d'abord s'interroger sur toutes ces entreprises, toute cette économie bien légale qui lui permettent de prospérer.
On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd sur France Inter.
Bienvenue, c'est le magazine économique de l'économie de la rédaction. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h avec la réalisatrice Céline Hilla, le réalisateur Charles de Silla, le chargé de production Valentin Pérez et puis à la technique Laurent Baudouin nous accompagne et Gilles Gaillard signe le mixage. On va discuter de l'économie comme on la vit, ce qui concerne aussi les livres que nous mettons sur nos étagères. Le Festival du Livre de Paris, ce grand rendez-vous entre lecteurs et professionnels, continue jusqu'à demain. Comment va le secteur? Pourquoi les auteurs et les éditeurs n'arrivent toujours pas à se mettre d'accord sur le partage de la valeur? Et aussi, bien sûr, le livre peut-il lutter face à l'écran? Dit autrement, Mortel Adèle est-elle de taille face à TikTok? Vous entendrez le reportage de Léa Gage. Et notre invité, c'est un géant de l'édition, le président du groupe Editis, ça veut dire Plomb, First, La Découverte, Nathan, Robert Laffont, entre autres. 56 maisons d'édition en tout. Hein. Denis Oliven sera avec nous, interview vers 9h40. Et puis ce sera l'heure de Ma vie au boulot. Bonjour Sandrine Foulon.
Bonjour Alexandra, bonjour tout le monde.
Sandrine, ce samedi, vous répondez à notre auditrice Candice.
Oui, une question de Candice sur la TVA sociale qui fait son grand retour dans le débat. Avoir moins de cotisations sur sa feuille de paye, mais payer plus cher ses courses, est-ce une bonne idée?
Eh bien, vous nous dites si c'est une bonne idée juste avant 10h, Sandrine Foulon, on vous retrouve tout à l'heure. Mais tout d'abord, l'actualité, et nous n'avons vraiment pas fini de parler de ce dérapage du budget et des économies que nous annonce le gouvernement pour redresser la barre. Ce matin, débat avec Anne-Laure Delatte. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Alexandra.
Chercheuse au CNRS, rattachée à l'Université Paris-Dauphine. Et Patrick Artus, bien
bonjour,
sûr.
Alexandra.
Bonjour Patrick, membre du Cercle des économistes et économiste de la Banque Natixis. Avec 10 nouveaux milliards à trouver pour faire des économies, on a déjà eu 10 milliards déjà annoncés en février, on a eu 20 autres milliards de coupes annoncées pour 2025, on s'y perd un peu. Chômeurs, fonctionnaires, retraités, classe moyenne, entreprises, collectivités territoriales, ultra-riches, qui doit s'attendre à faire des efforts? Et puis il y a toujours cette question, hein, pourquoi en est-on là? C'est notre débat.
L'ampleur du déficit public, il atteindra 5,1% du PIB en 2024, et cela malgré 10 milliards d'économies supplémentaires à trouver dès maintenant.
Donc il y a effectivement un déficit qui est important.
Michaël Zemmour.
D'une part, une croissance qui est plus faible qu'attendue, et puis d'autre part, c'est le gouvernement qui s'est lui-même créé ses problèmes de recettes.
Professeur d'économie à Lyon 2.
Depuis 2017, le gouvernement a beaucoup baissé les impôts sur les ménages, mais aussi sur les entreprises, et s'est privé d'à peu près 50 milliards de recettes par an.
On voit un gouvernement qui fait la leçon aux chefs d'entreprise et qui est d'une incurie, enfin, c'est incroyable.
Céline Imar, candidate Les Républicains aux élections européennes.
La motion de censure sera clairement votée si on doit aller faire les poches des Français ou racler les fonds de tiroir. On est dans une gabegie de l'État qui est incapable de dire qu'il a un problème avec son train de vie.
Il y a des économies qui, à mon avis, sont inévitables.
François Eckhart.
Alors, je ne sais pas s'il faut les qualifier de rabots, mais moi, j'en parle en permanence, les retraites. Hein.
Ancien magistrat à la Cour des comptes et président du site Fipeco.
Les retraités actuels, aujourd'hui, c'est le quart des dépenses publiques.
Ministre de la Transformation et de la Fonction publique.
En les valorisant de plus de 5% au 1er janvier, on a mis 14 milliards d'euros sur la table. Là, on rame pour en trouver 10, voire 20.
Il faut lever le tabou du licenciement dans la fonction publique. C'est le pavé dans la mare lancé par Stanislas Guérini.
Je vais vous donner un chiffre.
Stanislas Guérini.
Il y a dans l'État 2,2 millions d'agents publics.
Ministre de la Transformation et de la Fonction publique.
L'année dernière, il y a eu 13 licenciements. Il y a une autre modalité qui est la révocation pour faute. Il y en a eu 222. Il faut être très décalé pour considérer que quand vous avez un collectif de travail de 100 personnes, qu'il y a une personne qui ne fait pas son travail et que ça n'a pas de conséquences, et bien que ce n'est pas démotivant pour les 99 autres.
C'est honteux. En fait, il a trouvé encore un nouveau bouc émissaire.
Aurélie Trouvé, députée, La France Insoumise.
Il a pointé d'abord du doigt 5 millions de chômeurs dans ce pays. Maintenant, il s'en prend à 6 millions de fonctionnaires dans ce pays. Donc, il trouve des nouveaux coupables à sa propre politique, en fait, puisque c'est ce gouvernement qui multiplie les cadeaux fiscaux aux plus riches et aux multinationales et qui, dans le même temps, vide les poches de toutes les classes populaires.
Patrick Artus, je me tourne vers vous. Un nouveau tour de vis annoncé cette semaine après le dérapage budgétaire de la trajectoire. Est-ce que vous vous y attendiez à ces nouveaux 10 milliards après déjà 10 milliards annoncés en février ?
La réponse est oui.
Bien sûr, Patrick.
Non, mais parce que, enfin, on fait des calculs simples, nous économistes. Le gouvernement dit qu'il veut ramener le déficit public en dessous de 3% du PIB en 2027. Donc on part de 5,5, donc il manque 60 milliards d'euros de réduction du déficit. Hein. Et on sait que à cause de l'effet sur l'activité hein, des réductions du déficit public, que ce soit des hausses d'impôts ou que ce soit des baisses de dépenses, on récupère à peu près 1,5 € de réduction du déficit pour tout euro de baisse des dépenses ou de hausse des impôts. On perd la moitié de l'effet. Et donc il faudrait réduire donc 120 milliards d'euros le niveau des dépenses publiques ou
en cumulé jusqu'à 2027.
En cumulé entre 2023 et 2027, donc sur 4 ans. Et donc, on est à 30 milliards d'euros par an si on intègre hein, l'effet sur la réduction de la croissance de ces réductions du déficit. Et on peut affiner, on peut dire que des hausses d'impôts n'ont pas exactement le même effet que des baisses de dépenses publiques et que suivant la dépense publique à laquelle on touche, on a des effets différents. Donc, mais en gros, en moyenne, hein, on a ce chiffre de 1:2. Si on veut baisser de 1 euro le déficit public, il faut réduire de 2 le déficit public, à peu près, quelle que soit la politique qui soit menée.
Et Anne-Laure Delatte, est-ce que cette marche-là, de cette taille-là, on l'a déjà fait dans notre histoire ? On a déjà réduit, comme dit Patrick, de 30 milliards par an
Moi, je trouve que la séquence, elle est très longue, là. Comme vous dites, est-ce qu'on l'a déjà fait ? C'est très alarmant et très inquiétant ce qu'on nous demande de faire. Et je trouve que la séquence, elle est très longue, effectivement. Depuis février, on nous dit beaucoup de choses sur le déficit. Et le débat porte essentiellement sur les dépenses et pas sur les recettes. Alors que Michaël Zemmour le disait dans le zapping, là. En fait, si on regarde, un petit rappel, le déficit il s'est creusé malgré le ralentissement significatif des dépenses. En fait, en pourcentage du PIB, les dépenses publiques, elles ont baissé de 1,5 point de PIB. Donc, il y a un effort qui a été fait. Mais en même temps, en fait, les recettes ont ralenti encore plus. Si vous voulez réduire un déficit, il faut raccourcir la distance entre les deux. Ben, en fait, les dépenses ont ralenti, mais les recettes ont ralenti encore plus. Pourquoi ? Alors, Zemmour, pareil, le dit dans le zapping, mais je suis vraiment, c'est le diagnostic qu'il faut avoir. En fait, le gouvernement s'est privé de pas mal de recettes publiques en mettant en place une réduction d'impôts régulière depuis le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Mais en fait, là, vraiment, si vous regardez l'ensemble des prélèvements obligatoires, les cotisations sociales, donc une partie des prélèvements, a augmenté un petit peu moins vite que l'activité économique, mais ça a augmenté. Mais c'est les impôts qui ont stagné. On n'a jamais vu ça. En fait, les impôts sont restés à zéro. Enfin, à zéro. Dans le sens, par rapport à l'année dernière, on a récolté les mêmes impôts. Vous avez juste fini là-dessus. Vous avez une baisse de 10 milliards des impôts sur les sociétés. Vous avez une baisse moins 2,5 milliards de taxes d'habitation. Pourquoi ? Parce qu'on a retiré la taxe d'habitation. Il vous manque 7 milliards de taxes sur les produits hors TVA. Donc c'est droits de mutation, taxes sur l'énergie. En tout, notre déficit il s'est creusé 30 milliards. Et là, je viens de vous en trouver 20 milliards. Je viens de vous trouver 20 milliards de manque de recettes d'impôts.
Mais c'était ça la stratégie, Patrick Artus. C'était on libère la France des impôts et puis on va faire plus de croissance, on va faire plus d'emplois. Et du côté du gouvernement, alors, il vous répondrait que bah, ils ont créé des millions d'emplois, de 2 millions, plus de 2 millions. Et puis que s'il n'y avait pas eu le Covid, s'il n'y avait pas eu l'Ukraine, la stratégie aurait évidemment mieux marché.
Oui, je crois que certains morceaux de la stratégie fiscale du gouvernement sont efficaces. Par exemple, on a une très forte hausse des investissements des entreprises, qu'on doit relier au fait que les entreprises payent effectivement moins d'impôts. Mais en contrepartie, elles sont investies beaucoup plus. Hein. Et donc je comprends aussi le gouvernement ou le président de la République qui n'a pas envie de revenir sur des baisses d'impôts qu'il a décidé. C'est une stratégie affichée, c'est une stratégie de stimulation de l'offre. Et en fait, cette stratégie, elle marche quand même. Hein. On est le pays européen où l'investissement des entreprises a progressé le plus vite. Hein,
Vous, faut pas. Alors, vous dites ça et pourtant je vous connais. Vous dites souvent, mais on va devoir augmenter des impôts.
Oui, mais alors il faut faire une liste des impôts qu'on peut augmenter. Donc, je pense que on parlait de la substitution de la TVA aux cotisations sociales. Moi, je pense que, enfin, on peut faire ça, mais c'est très du second ordre. La réalité, c'est qu'on peut pas monter la TVA parce que ça réduit le pouvoir d'achat des ménages ou des ménages les plus modestes.
Anne-Laure Acquies.
On peut pas monter les cotisations sociales parce que c'est soit mauvais pour l'emploi, soit mauvais pour la consommation. On peut pas monter les impôts sur les sociétés ou les impôts de production des entreprises parce que c'est un engagement fort du gouvernement et du président. Et donc, qu'est-ce qui reste? Il reste des impôts sur la fortune, quoi. Je dirais, il reste des impôts sur la fortune diverses. Et donc, l'ISF vert, par exemple, que suggérait Jean Pisani dans son rapport sur la transition énergétique.
Mais ça, c'est la recommandation de l'économiste Anne-Laure Delatte. Ça n'est pas ça qui nous est annoncé, puisque justement, ce qui nous est annoncé, et c'est là où il faut que vous nous aidiez un petit peu à y voir plus clair. Est-ce qu'on sait, est-ce que cette semaine, on nous a annoncé qui allait devoir s'attendre à des coupes, qui devait faire des efforts.
Alors ça, oui, on nous en annonce des efforts et on parle de TVA sociale, effectivement.
Je rappelle peut-être la TVA sociale, vous la rappelez.
Ou d'allocation, ouais. Alors,
c'est baisser la TVA et supprimer des cotisations sur le salaire.
C'est remplacer, on pourrait en faire des heures parce que c'est remplacer les prélèvements. C'est remplacer le financement de la protection sociale des cotisations vers la TVA, qui est un impôt pour tous, régressif, etc. Mais en fait, Patrick, en fait, il faut être raisonnable, il faut arrêter l'hémorragie. Il manque 20 milliards par an. Ils sont pas si compliqués à trouver. 20 milliards, c'est beaucoup, mais l'objectif, c'est de trouver des milliards, de mettre des impôts qui ont le moins d'effets sur l'activité économique. Je crois qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus. Vous dites, je comprends Emmanuel Macron qui ne veut pas retirer des choses de son programme. Si ça marche pas, il faut les retirer. En fait, les impôts sur la production, c'est 6,5 milliards par an. Et est-ce qu'il y a un effet? Je n'en sais rien. En revanche, je sais que le CICE qui a été transformé en exonération sociale, il a été évalué et il a des effets extrêmement limités. Je sais que le CIR, le crédit impôt recherche, il a été évalué et il a des effets plus que limités. Des économistes proches d'Emmanuel Macron pour l'innovation, je ne vais pas le citer.
Philippe Aguillon.
Voilà. Dit lui-même, le CIR, quand même, c'est un sacré effet d'aubaine. Ça coûte combien? 27 milliards par an entre le CICE et le CIR. Moi, je ne vous dis pas qu'il faut les récupérer d'un coup. Retirons 5% chaque année. Et on va récupérer à peu près 2 milliards par an. En fait, il nous faut 20 milliards. Je peux vous les trouver. Je suis complètement d'accord avec vous sur le patrimoine, les plus hauts patrimoines, mais ça rapportera pas assez. Parlons de l'impôt sur les héritages, mais les héritages des plus hauts fortunés. Qui
mais là,
ne
les
le
économistes, vous êtes tous d'accord. Le sujet, d'accord. Oui, vous êtes tous d'accord là-dessus.
On peut récupérer 9 milliards par an si on fait une réforme de l'impôt sur l'héritage qui ne touche pas aux classes moyennes mais qui fait payer les gens qui ont vraiment un gros patrimoine.
Patrick Artus, est-ce qu'on les fera ces économies à votre avis ou est-ce que ces coupes, hein, puisque pour l'instant ce ne sont pas des recommandations des économistes mais c'est autre chose qui nous est annoncée, est-ce que vous pensez que cette marche très haute on va vraiment la franchir parce que cette fois-ci il faut arrêter de mener en bateau nos partenaires européens et de leur promettre la lune et peut-être les agences de notation ou est-ce qu'on... On fait beaucoup de bruit et puis finalement, la France, on n'y arrivera pas.
Je ne crois pas que le déficit public sera inférieur à 3% du PIB en 2027. Parce que, objectivement, donc, le gouvernement ne veut pas, et le président de la République ne veulent pas augmenter la pression fiscale. Et moi, je comprends, donc je ne reviens pas sur les explications, que les morceaux des impôts qu'on peut augmenter sont assez limités, et c'est très improbable qu'on réduise les dépenses publiques de 30 milliards d'euros chaque année. Il faut se poser la question, est-ce que c'est grave de ne pas réduire le déficit public jusqu'à 3% du PIB?
Et vous avez 30 secondes pour me répondre.
Je pense que ce qui serait grave... Il y a une demande forte pour la dette française. Et ce qui serait grave, c'est de la demande pour la dette européenne. Et donc, ce qui serait grave, c'est que brutalement, les investisseurs étrangers substituent, c'est la seule dette européenne qui pourrait substituer à la dette française, de la dette espagnole à la dette française. Et donc, ça ferait une crise des conditions de financement de la dette française. Est-ce qu'on risque d'avoir... d'ici 4 ans, ce mécanisme où les investisseurs vendraient de la dette française, réachèteraient de la dette espagnole, la probabilité est quand même assez faible. Hein. Et donc je crois qu'on peut prendre le risque de ne pas réduire le déficit public jusqu'à 3% du PIB en 2027.
Mais est-ce qu'on peut continuer comme ça pendant longtemps? C'est aussi la question. Est-ce qu'on peut continuer à laisser filer?
Oui, il y a une stratégie de court et de moyen terme. À court terme, il faut récupérer des recettes, arrêter l'hémorragie et on réduit notre déficit de façon un peu plus rigoureuse. En revanche, Patrick a raison, la demande sur la dette française est toujours très importante, mais notamment, on a une Banque Centrale Européenne derrière nous, et en fait, il faut qu'elle reste derrière nous. Il faut que la Banque Centrale Européenne fasse une politique monétaire verte, elle commence à le faire, mais il faut qu'elle dise aux investisseurs, ne vous inquiétez pas, prêtez aux pays européens, et eux, ça fera baisser notre coût d'emprunt, et c'est ça qu'il faut. En fait, il faut garder un taux d'intérêt.
Vous comptez sur la BCE, vous.
Il faut garder un taux d'intérêt qui est inférieur au taux de croissance, et la BCE peut nous aider à faire ça.
Anne-Laure Delatte et Patrick Artus, à qui je coupe la chic, là, ils voulaient répondre. Ils ont fait le débat, donc on n'arrête pas l'écho.
Real decreto ley para la ampliación de derechos
deindustrialisierung und
unemployment and lower job
creation.
Nous quittons la France quelques instants, c'est l'écho en VO pour voir comment l'économie tourne ailleurs, direction l'Inde.
But let me say, India, despite the many global challenges, is the fastest growing major economy today. This itself says that democracy can deliver.
Laissez-moi vous dire que l'Inde, en dépit de nombreux défis, connaît la plus forte croissance au monde parmi les grandes économies. It is the fastest growing major economy today. C'est Narendra Modi qui parle. Le chef du gouvernement indien est en campagne après 10 ans à la tête du pays. Le scrutin pour les législatives démarre vendredi prochain. Bonjour Combastin.
Bonjour Alexandra, bonjour à tous.
Vous êtes le correspondant de France Inter en Inde. Dites-nous, comment est-ce que après une décennie aux manettes, le Premier ministre Modi peut s'enorgueillir de son bilan économique?
Bah, en tout cas, il n'hésite pas à le faire, surtout sur la croissance, comme on l'entendait. 6% en moyenne depuis son élection en 2014. L'Inde était alors 10e économie mondiale en termes de PIB. Aujourd'hui, elle est 5e. Devant l'ancienne puissance colonisatrice britannique, c'est tout un symbole. Et s'il est réélu, Modi promet qu'elle sera 3e derrière les États-Unis et la Chine. Le Sensex, qui est l'indice boursier indien, a triplé en 10 ans. Et c'est vrai que le regard sur l'Inde a changé. Le pays est vu comme une alternative à la Chine. Les multinationales comme Tesla ou Foxconn s'y intéressent. La stature de l'Inde parmi les grandes puissances, c'est d'ailleurs le thème de la campagne de Narendra Modi. Mais l'opposition, elle, ne partage pas cet enthousiasme.
Parce que derrière le discours volontariste sur l'économie, comme il y a des angles morts?
Oui, Alexandra, le premier débat, c'est de savoir si cette croissance, elle est vraiment liée à Modi. Puisqu'en fait, l'Inde a commencé à décoller dans les années 2000, lorsque l'économie s'est ouverte, libéralisée. La croissance était tout aussi élevée avant que Narendra Modi ne prenne les rênes du pays. Et d'ailleurs, beaucoup de pays autour, comme le Vietnam ou le Bangladesh, font mieux aujourd'hui. Et deuxième question, à qui profite cette croissance? Beaucoup de rapports montrent que la richesse est captée par une infime partie de la population et que l'Inde n'a jamais été aussi inégalitaire. Et puis, l'industrie stagne à 15% du PIB. Et du coup, cette croissance ne crée pas assez d'emplois et le chômage reste très élevé, ce qui est une vraie épine dans le pied de Narendra Modi. En bref, derrière les beaux chiffres, des résultats contrastés.
Combastin avec nous de Bangalore. (Rire) 9h34 sur France Inter. Ce samedi 13 avril, au Grand Palais éphémère, le Festival du Livre de Paris bat son plein. Il fermera ses portes demain. Notre invité dans moins de 10 minutes, ce sera le patron du groupe Editis, un des géants de l'édition française, Denis Oliven. Avec lui, des questions sur la chute de la lecture chez les jeunes, l'arrivée de l'intelligence artificielle, la liberté des éditeurs et des auteurs dans un secteur qui se concentre désormais aux mains de milliardaires. Et puis, il y a ce sujet sur le partage de la valeur du livre. Un problème de fond, voire un serpent de mer. Il y a 4 ans, le rapport Racine décrivait une dégradation de la situation pour les auteurs et depuis, les négociations sur ce partage avec les éditeurs continuent sous la houlette du ministère de la Culture. Mais comme l'a constaté notre reporter Léa Gedge, les discussions s'enlisent. Allez, on la suit en librairie, Léa. Elle est accompagnée par un écrivain qui a porté la plume dans la plaie.
Bonjour, bienvenue à la librairie Les Arpenteurs.
Est-ce que vous avez mon livre qui s'appelle À pied d'œuvre, chez Gallimard?
Alors oui, je pense que je l'ai, je vais vérifier, je vous demande un instant.
Alors je m'appelle Franck Courtès et je suis écrivain. J'ai écrit un livre en septembre 2023, mon dernier livre qui s'appelle À pied d'œuvre, publié chez Gallimard.
Combien il coûte ce livre?
Il coûte 18,50 €. Moi, je ne touche que 10%, c'est-à-dire 1,85 € brut, soit environ 1,50 € net pour chaque livre vendu. C'est insuffisant pour vivre, en tout cas. Mais...
Alors justement, qu'est-ce que vous racontez dans ce livre?
Eh bien, je raconte tout ce que j'ai dû faire pour continuer à simplement manger pendant que j'écrivais. Donc des petits boulots, du jardinage, des déménagements, du taxi clandestin, des débarras de gravats sur des chantiers, laveur de vitres, beaucoup, beaucoup de choses.
Et aujourd'hui?
J'ai touché à la signature du contrat une avance, ce qu'on appelle un avaloir de 10 000 € que je dois faire tenir sur les 3 années d'écriture du livre, enfin 2 années et demie, et ensuite une année durant laquelle on ne touche plus rien avant de toucher la suite des droits, si on dépasse en chiffre de vente cette somme, ce qui manque.
Oui, parce que vous avez eu plutôt du succès.
Oui, ce livre-là a eu plus de succès que les autres. Mais je constate que même en ayant vendu 10 500 exemplaires, ce qui paraît-il est très bien, ben, je reste toujours au RSA. Il n'y a rien qui décolle vraiment, quoi.
Franck Courtès n'est pourtant pas parmi les moins bien lotis. Selon les organisations professionnelles d'auteurs, les taux de rémunération s'établissent généralement autour de 8% du prix du livre en littérature générale, 5% en jeunesse ou encore 3% dans le secteur pratique.
Oui, bonjour, Léa Gedge, France Inter. On a rendez-vous avec Maya Ben-Simon.
Je vous ouvre.
C'est au premier étage après l'entresol.
Merci.
Au Syndicat national des auteurs et compositeurs, Maya Ben-Simon, la déléguée générale, se plonge régulièrement dans les contrats d'édition.
Hop là.
L'auteur cède tous les droits que vous pouvez imaginer, en fait, après avoir cédé les droits pour faire le livre en grand format en librairie. Il va céder des droits pour des exploitations évidentes, comme par exemple faire une traduction, faire un roman graphique, faire un poche, etc. Et puis, il va céder des droits pour faire des choses moins attendues quand on est auteur de livres, pour faire du multimédia, pour toute exploitation sous forme numérique. Et donc, la clause, elle est assez longue. Ces droits sont cédés pour toute la vie de l'auteur, plus 70 ans. Et le contrat d'édition ne couvre, en termes de rémunération, qu'une toute petite partie de la valeur. Et donc, nous, aujourd'hui, on dit deux choses. Un meilleur partage de la valeur, effectivement, c'est-à-dire des meilleurs taux pour tous les auteurs, 10% sur le livre pour partager la valeur correctement. Des meilleurs avaloirs, c'est-à-dire des meilleures avances. Ensuite, deuxièmement, on veut la fin de l'amortissement. C'est-à-dire que l'avance que décrivait Franck, qu'il a eue 10 000 euros qui a couvert sa période de création avant que le livre sorte, qu'il empoche ces 10 000 euros comme une prime et qu'ensuite il récupère le pourcentage qui lui est dit en application du contrat d'édition dès le premier exemplaire vendu. Il n'attend pas que les 10 000 euros soient amortis. Et troisièmement, j'ai envie de dire, ce qu'on va demander, c'est la fin de l'accaparement des droits, parce que si on n'a pas la fin de l'amortissement, on va dire vous pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre, vous pouvez pas à la fois continuer à amortir ces avances qui sont d'ailleurs de plus en plus faibles, et continuer à avoir des cessions de droits hyper larges pour une durée hyper longue. Donc on est en concertation sous l'égide du ministère depuis quelques années. On essaie de forcer les éditeurs à discuter de rémunération, parce qu'aujourd'hui c'est un sujet très difficile à aborder avec eux. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à débloquer.
Côté éditeur, cette discussion sur la rémunération n'est pas à l'ordre du jour. D'autant qu'ils font un constat différent au sujet du partage de la valeur du livre. En début d'année, le Syndicat national de l'édition a d'ailleurs publié ses chiffres. J'ai rendez-vous avec son directeur, Renaud Lefebvre.
De notre point de vue, la répartition de la valeur générée par la publication d'un ouvrage n'est pas manifestement inéquitable entre la part revenant à l'auteur et la part conservée par l'éditeur. Alors, sur un livre qui est vendu 20 euros, 10 euros servent à assurer l'acheminement du livre tel qu'il a été produit par l'éditeur auprès du lecteur. Maintenant, si j'en viens à l'étude qu'on a réalisée. L'étude qu'on a réalisée, elle ne porte pas sur cette phase aval de la commercialisation du livre. Elle porte sur ce qui se passe pour l'autre moitié, donc les 10 euros, qui correspondent effectivement au chiffre d'affaires qui est réalisé par l'éditeur. Et sur ces 10 euros, les frais de fabrication représentent environ 35%, donc on va dire 3,50 euros. 2,50 euros vont correspondre aux frais des équipes qui vont travailler sur la mise au point du manuscrit, le suivi de fabrication et le dispositif de promotion de l'ouvrage. 2,50 euros correspondront aux droits d'auteur, environ un quart sur le compte d'exploitation des maisons d'édition, et le solde restant, de l'ordre de 18% si on fait le calcul de toutes ces fractions, qui vont permettre d'une part à la maison d'édition de supporter ses frais de structure qu'elle supporte comme toute entreprise, c'est-à-dire ses équipes administratives, comptables, financières, et ses loyers, etc., tout ce qui permet à l'entreprise de fonctionner. Ce qui veut dire que, après que l'ensemble de ces charges ont été couvertes, la rentabilité d'exploitation avant impôt de l'édition se situe aux alentours de 5% de son chiffre d'affaires, environ 50 centimes.
Voilà, entre auteurs et éditeurs, pour le moment, c'est la bataille de chiffres. Comment en sortir? Selon l'économiste Olivia Guillon, l'origine de la discorde se trouve dans la structure même du marché du livre.
Le marché de l'édition est un marché très concentré. Les maisons d'édition qui sont dans la partie concentrée du secteur, regroupées dans quelques groupes industriels importants, Hachette, Editis, concentrent plus de 80% du chiffre d'affaires et des ventes du marché de l'édition. Ces groupes sont également assez régulièrement détenteurs de leur propre réseau de diffusion et de distribution. Ça renforce à la fois la rentabilité et le pouvoir de marché de ces maisons-là. c'est-à-dire une capacité à influencer les termes de l'échange plus importante que leurs interlocuteurs, qui sont les auteurs, qui sont, eux, éparpillés. La plupart des auteurs, en fait, négocient individuellement avec leur maison d'édition. Donc, il existe une asymétrie, en fait, de ces positions économiques. Par ailleurs, il y a aussi une concentration de plus en plus forte sur les best-sellers, les titres qui se vendent le plus. Donc, on a plutôt une polarisation, en fait, entre... les titres et les auteurs et les maisons d'édition qui se vendent très bien, et les autres.
Entre auteurs et éditeurs, la bataille du partage de la valeur. C'était le reportage de Léa Gage.
France Inter, on n'arrête pas l'écho, Alexandra Ben Saïd.
Et notre invité ce samedi matin, c'est le président du grand groupe d'édition Editis. Bonjour et bienvenue Denis Oliven.
Bonjour, merci de votre invitation.
Editis, c'est un groupe qui comprend 56 maisons d'édition, c'est ça?
Oui.
Plon, Robert Laffont, je dis un peu aux auditeurs, parce que c'est vrai qu'on ne voit pas l'importance de cette galaxie. Nathan, La Découverte, qu'est-ce que j'oublie? Il y a tout, il y a du scolaire, du pratique.
Exactement, il y a des romans, des essais, des livres populaires, des livres plus élitistes, du livre pratique, de l'illustré, du livre scolaire. Enfin, on a toute la gamme de l'édition.
Vous avez entendu le reportage avec nous. Hier, Rachida Dati, la ministre de la Culture, a indiqué qu'elle souhaite que les résultats de cette discussion entre auteurs et éditeurs, et notamment sur le partage de la valeur, soient traduits dans une loi. Est-ce qu'elle est en train de vous mettre un petit peu la pression, la nouvelle ministre de la Culture? Est-ce qu'il faut, pour que ça aboutisse enfin, ça fait quand même des années, et est-ce qu'il faut une loi, à votre avis? Un peu comme chez les agriculteurs, là, avec Egalim.
D'abord, je voudrais rappeler que le droit d'auteur est un élément essentiel de la vie de l'édition et même de la vie des œuvres de l'esprit plus généralement. Vous savez que les deux grandes révolutions du livre, c'est l'invention de l'imprimerie au XVe siècle et c'est 1791, Beaumarchais, le droit d'auteur. Parce que la juste rémunération des auteurs, d'abord, c'est un principe d'équité, mais c'est en plus du point de vue économique le moteur de la production et de la création. Donc ce principe est légitime. Deuxième point, on observe, c'est l'étude qui est citée par le syndicat du livre dans votre reportage, on observe qu'aujourd'hui, les auteurs reçoivent à peu près 20% de la rémunération, 25% plus exactement, de la rémunération qui revient qui est hors diffusion, hors librairie.
Non, je vous entends, Denis Levene, mais on va pas faire là. On peut pas faire ce matin.
Non, mais ce qui est important, c'est de comprendre ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que donc globalement, quand on regarde en littérature générale, en moyenne, là, le fameux seuil de 10% est observé pour les illustrés, pour la bande dessinée. Il y a souvent un auteur et un illustrateur, donc ça divise par deux la rémunération. Mais globalement, si on les regroupe, le seuil des 10% est également observé. Mais alors pourquoi est-ce qu'il y a la perception par les auteurs d'une situation qui est injuste?
Faut-il une loi?
Deux raisons principales, mais je réponds à votre question en l'expliquant. Deux raisons principales. La première, c'est que depuis 10 ans, on a multiplié par deux le nombre des livres, mais on a divisé par deux le tirage. Et donc, c'est à somme nulle en termes de volume de livres vendus. Mais en revanche, pour les auteurs, c'est pas du tout la même chose. Donc, le sentiment de la rémunération n'est pas le même. Deuxième point, l'univers du livre est très dispersé. On publie chaque année 70 000 livres. Il y a 700 éditeurs, il y a 100 000 auteurs. Et donc, il y a une forte dispersion entre les auteurs. Tous ne sont pas logés à la même enseigne. Si on forçait la main, c'est pour ça que sur la loi, à la limite, la loi, peu importe. Le point clé, c'est qu'est-ce qu'il y a dans cette loi. Si on forçait la main, je vous mets en garde, si on forçait la main sur ce type de mécanisme, on créerait probablement un effet malthusien. C'est-à-dire qu'on pousserait les éditeurs. D'abord, on ferait disparaître les petites maisons, mais surtout, on ferait disparaître les petits auteurs. Parce qu'on pousserait l'édition à se concentrer encore davantage, à se best-selleriser encore davantage qu'elle ne l'est. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit la chose la plus intelligente du monde. En revanche, que ces discussions aboutissent et qu'elles trouvent des formules intelligentes d'accord entre les éditeurs et les auteurs, ça me paraît légitime.
Et vous dites, on publie trop en France. Alors Editis, vous publiez, je crois, environ 5000 ouvrages par an. Est-ce que ça veut dire que vous êtes président depuis novembre, vous dites, allez, on va publier moins, et vous mettez même un objectif. Vous dites, on fera moins de 5000.
Pas mis d'objectif qualifié, parce que l'édition, c'est pas de l'industrie. C'est un travail de prototype. Et puis, quels sont les critères de sélection? Moi, je pense que c'est les éditeurs qui doivent choisir. Mais de fait, les éditeurs doivent ne publier que des livres qui comptent pour eux. qui compte, c'est pas forcément qui compte au sens commercial.
J'entends, mais bon.
Très important parce que c'est une manière de mieux traiter les auteurs aussi. Aujourd'hui, beaucoup d'auteurs se sentent maltraités parce qu'ils arrivent comme des petits chevaux sur la ligne de départ et ils ont le sentiment que leur livre n'est pas traité en termes de publicité, de marketing, d'accompagnement, et c'est vrai.
Mais donc le marché, il se porterait mieux, les auteurs se porteraient mieux si on avait quoi, 10% de livres en moins tous les ans sur...
Incapable de vous dire quel est le chiffre, et ça serait bien comment dirais-je, peu fondé en raison de donner un chiffre. Mais il faut que nos... En tout cas, pour Editis, je ne me mêle pas de l'avis des autres, pour Editis, on a demandé à nos éditeurs de s'engager profondément dans chacun des livres qu'ils publient. Mais ça peut être des livres, des premiers livres, des livres qui n'auront pas d'audience, des livres qui vont changer l'histoire de l'humanité, mais pas celui des...
Mieux de livres, mais moins de livres, j'entends. Voilà. Denis Olivet, nous avez quand même tous éditeurs un défi énorme pour l'avenir. Il y a cette étude, cette semaine du Centre National du Livre. Les jeunes consacrent 10 fois moins de temps aux livres qu'à leurs écrans. Même le Premier ministre Gabriel Attal a déclaré dans l'hémicycle « Je ne veux pas d'un pays où TikTok remplace les romans ». Est-ce qu'on peut encore l'éviter ?
Je suis pas sûr qu'il faille être à ce point catastrophiste, parce que il reste quand même, quand on voit les chiffres, il reste quand même un bon niveau de lecture des jeunes. Simplement, moi, ce qui m'a frappé, c'est la chose suivante. C'est qu'il y a le temps de lecture entre les enfants des couches favorisées et les enfants des couches populaires, c'est du simple au double. Donc c'est pas simplement un enjeu d'édition, c'est un enjeu politique, c'est un enjeu démocratique, c'est un enjeu d'égalité. Faire que l'école se soucie peut-être davantage qu'elle ne le fait, de l'accès, même si elle le fait, de l'accès à la lecture des jeunes, c'est un enjeu d'égalité sociale.
C'est à l'école, c'est aux instituteurs, c'est aux maîtres d'école de le faire, ça. C'est-à-dire à l'école, ils mettent les mêmes livres pour tout le monde.
Non, mais je pense que la bataille pour la lecture, le goût de la lecture, et notamment pour le goût de la lecture chez les enfants des couches populaires, des classes défavorisées, est une bataille, pour moi, c'est la mère des batailles de l'éducation nationale, avec les mathématiques.
Et alors les éditeurs, ils peuvent faire quoi pour ça ?
Les éditeurs, ils peuvent... Je crois que les éditeurs, et d'ailleurs les médias, je dirige par ailleurs un groupe de médias, donc
président du conseil de surveillance de CNU Média.
Je pense que nous nous sommes snobinardisés dans la façon dont nous promouvons le livre. Nous nous sommes enfermés, quand on en parle, dans la lecture pour l'élite éclairée, alors qu'on devrait pousser les modes de lecture qui sont des accès à la lecture. La bande dessinée, le manga, la littérature populaire qu'on regarde peut-être parfois avec dédain, c'est des glissements progressifs vers le plaisir de la lecture. Et donc on devrait se promouvoir aussi ces lectures qui sont une façon, au lieu de les regarder avec mépris, qui sont une façon d'accoutumer ceux pour qui la lecture n'est pas évidente à cette lecture.
Le gouvernement veut soutenir les libraires, c'est toujours le plan de soutien au livre de Rachida Dati, aider les libraires à s'installer dans les quartiers, aller dans les zones rurales, élargir les horaires d'ouverture des bibliothèques, tout ça c'est bien.
Très bonnes idées, très bonnes idées. Vous savez que la France se caractérise par le fait que, notamment grâce à l'invention ingénieuse du prix unique du livre, nous avons
1981.
Maintenu un réseau de libraires, notamment de réseaux de libraires indépendants, qui est décisif pour la lecture en France et donc pour l'avenir du livre. Donc tout ce qui est fait pour soutenir la librairie est bienvenu.
Et pendant 2 ans, alors ça aussi c'est fait pour soutenir, mais qu'en pensez-vous ? Vous allez pouvoir faire de la publicité pour les livres à la télévision. Ce matin sur France Inter, on avait Antoine Gallimard, le président du groupe Madrigal, qui s'est dit très surpris. Pour lui, il y a urgence à retirer ce décret qui vient d'être publié. Il explique que ça profitera d'abord aux best-sellers, aux grosses maisons d'édition. Est-ce que vous, Denis Oliven, chez Editis, vous aussi vous souhaitez l'abrogation de ce décret ?
Nous, on fait partie des groupes qui avons beaucoup de best-sellers. Et pourtant, je vais vous surprendre, mais je suis d'accord avec Gallimard. Je pense que, et ça c'est mon expérience des médias, je pense que ça va profiter, en effet, ça va continuer d'accélérer la concentration du marché sur ses plus gros vendeurs au détriment de la diversité. Parce que seuls les best-sellers peuvent supporter les coûts d'une publicité à la télévision. Donc je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée. On ferait mieux de mettre de l'argent dans des émissions télévisées, des émissions de télévision qui promeuvent la lecture et la lecture pour le plus grand nombre plutôt que de faire ça.
Et je pense que le message est clair, donc retirez le décret. Editis, un chiffre d'affaires de près de 800 millions d'euros. À nos confrères de Ouest France, vous avez expliqué qu'avec le même chiffre d'affaires, le groupe est 3 fois moins rentable qu'il y a 5 ans.
Et alors, pour améliorer cette rentabilité, vous misez entre autres sur l'intelligence artificielle. J'imagine que là, les éditeurs, les correcteurs, les traducteurs doivent tendre l'oreille. Est-ce que vous imaginez que les IA vont remplacer ces professions-là ?
D'abord, sachez que je mise d'abord sur l'intelligence naturelle. Avant de miser sur l'intelligence artificielle, sur le travail, sur les auteurs, j'ai d'ailleurs dit que l'IA, pour moi, ça voulait dire d'abord importance des auteurs avant de vouloir dire intelligence artificielle. Parmi les choses qu'on doit faire, il y a l'intelligence artificielle. Mais c'est l'intelligence artificielle, pas méprisée, mais maîtrisée, utilisée par les correcteurs, par les traducteurs, par les éditeurs, par les gens qui font du marketing. Donc c'est un outil. Je ne vois pas demain, je crois que là, il ne faut pas non plus qu'on s'inquiète exagérément, je ne vois pas demain que l'intelligence artificielle ait la délicatesse, la finesse, la subtilité qui permettent de traduire un grand auteur. Donc c'est un outil qui sera mis au service des traducteurs, mais on aura toujours besoin des traducteurs pour ce travail.
Le grand écrivain Salman Rushdie, lui, pense que l'IA pourrait conquérir l'écriture de livres, on va dire peut-être avec... Allez, je sais pas comment dire, moins de finesse d'écriture, la science-fiction ou le thriller. Il a dit ça il y a 3 semaines dans la revue NRF. Est-ce que vous pensez que c'est possible?
Peut-être suis-je ringard, mais je n'y crois guère pour une raison toute simple, c'est que l'histoire des œuvres de l'esprit, c'est l'histoire des... quelles sont les grandes œuvres, celles qui ont marqué leur temps, c'est des œuvres qui ont fait une rupture hein, par rapport au passé, qui ont inventé des formes de récits ou de regards sur le monde nouveau. C'est vrai pour les essais, c'est vrai pour les romans. Or, l'intelligence artificielle, elle apprend à partir de la chronique des événements passés. Donc, elle peut répéter des formes qui existent. Elle ne peut pas inventer des formes nouvelles. Donc, qu'on produise des livres à partir de l'IA, c'est possible. Que ce soit ça qui attire finalement le lecteur, je ne crois pas. Franchement, je pense que les lecteurs sont suffisamment éclairés pour voir la différence entre une œuvre répétitive et une œuvre originale.
Chez Editis, votre actionnaire, c'est l'homme d'affaires milliardaire tchèque Daniel Kretinsky. Alors évidemment, il y a toute cette grande question de la concentration des maisons d'édition aux mains de milliardaires et de la liberté qui est laissée aux éditeurs et aux auteurs. Si on proposait à Editis une grande enquête sur les investissements de Daniel Kretinsky, des centrales à charbon jusqu'à casino, vous faites quoi, vous, Denis Oliven?
Écoutez, c'est comme l'amour et les preuves d'amour. Les libertés, il y a des preuves. Donc nous, ça fait 5 ans que Daniel est le propriétaire de titres de presse, Marianne, Elle, etc.
Là, dans c'est CMI Édition, n'est-ce pas ?
Dans laquelle il n'est jamais intervenu, dans laquelle il y a eu des articles qui étaient contre lui. La seule chose qu'il a dite, et qui me paraît légitime, c'est qu'il souhaitait que les maisons d'édition ou les titres de presse dans lesquels il est actionnaire, aussi impertinent soit-il sur le fond, soit pertinent sur le fond, c'est-à-dire soit rigoureux, soit sérieux, et par ailleurs respecte les valeurs démocratiques. Donc si c'est des livres enquêtés, contradictoires, sérieux, il n'y a aucun problème.
Contrairement à certaines maisons d'édition ?
Ah ben ça, c'est vous qui le dites.
Alors, vous allez devenir sans doute, hein, dans bientôt, le patron d'un grand groupe qui regroupera la presse et l'édition. Est-ce qu'il vous manque une télé ? Vous avez parlé de magazine, de livres. Est-ce qu'il vous manque une télé ?
Si l'occasion se présentait d'avoir accès à une télévision et une radio, bah, évidemment, on la saisirait.
Il y a des opportunités ?
Il va y avoir bientôt le renouvellement des fréquences de la TNT. Une fois tous les 5, 6 ou 7 ans, il y a un marché de la fréquence de télé ou de radio. Mais enfin bon, c'est assez hypothétique.
Denis Oliven, le président d'Editis et bientôt donc sans doute de ce groupe Editis Média France. Merci d'avoir été sur France Inter.
Merci à vous.
On n'arrête pas l'écho sur France Inter.
Sandrine Foulon, Candice vous a écrit, elle gagne un peu plus que le SMIC et elle suit avec intérêt ce débat autour de la TVA sociale, débat qui revient. Hein. En clair, ça veut dire qu'on baisse les cotisations sur le salaire, mais qu'on augmente la TVA en contrepartie. Alors Candice vous demande, va-t-elle perdre ce qu'elle a gagné en passant à la caisse de son supermarché ?
Eh bien oui, Candice, c'est toute la question. La TVA sociale est une vieille idée. Nicolas Sarkozy avait mis en œuvre sa version en 2012, mais c'est Bruno Le Maire qui a remis une pièce dans la machine. Dans son dernier livre « Une voix française », le ministre de l'économie propose de transférer 5 points de cotisation sociale, c'est-à-dire 60 milliards d'euros, vers la TVA pour désmicardiser la France. L'avantage, vous l'avez dit Candice, c'est que votre salaire net augmenterait mécaniquement. C'est ce qui s'était passé en 2018. avec la suppression des cotisations chômage et maladie, qui avait été compensée par une hausse de la CSG, la contribution sociale généralisée. Mais l'inconvénient, vous l'avez aussi repéré Candice, c'est qu'une hausse de la TVA, ça se traduit par un panier de courses plus cher à la caisse. Et la facture est la même, qu'on soit actif ou retraité. C'est la principale critique qui est faite à cette taxe, elle est anti-redistributive. Chacun subit la hausse du paquet de coquillettes, mais c'est plus facile à supporter quand on gagne plusieurs SMIC. La mesure pourrait créer des inégalités, au moins à court terme. À plus longue échéance, les salariés les plus pauvres peuvent espérer s'y retrouver grâce aux prestations sociales qui sont indexées sur l'inflation.
Mais Sandrine, il y a une autre question. Si on ferme de plus en plus le robinet des cotisations salariales, alors comment est-ce qu'on finance le système de protection sociale ?
Alors, tout dépend de ce qui est décidé chaque année dans les lois de finances. Il y a 40 ans tout juste, la loi Veil imposait à l'État de compenser à l'euro près toutes les mesures de réduction ou d'exonération de cotisations sociales. Je vous signale que c'est terminé. En 2019, on a eu un budget de financement de la Sécu qui a marqué la fin de ce compromis historique. Et c'est important de l'avoir en tête quand on réfléchit à la mécanique de la TVA sociale. Aujourd'hui, la TVA ne finance qu'une petite partie de la protection sociale, mais c'est vrai que toute une série de taxes supplante de plus en plus les cotisations payées par les salariés et les employeurs. Il y a 30 ans, l'impôt pesait moins de 5% dans ce financement, c'est 40% aujourd'hui. Remplir les caisses de la Sécu par la fiscalité ou les cotisations est un choix économique qui se discute. Pour beaucoup de salariés, Candice, c'est sans doute un jeu à somme nulle, mais cette inclinaison est aussi politique. La fiscalité est un levier qui laisse les coups des franches à l'exécutif. Les partenaires sociaux le savent bien. Plus les cotisations disparaîtront du paysage, moins ils auront leur mot à dire sur la gestion de l'État-providence.
Sandrine Foulon, ma vie au boulot. Après le journal du cinéma, vous avez rendez-vous avec Christine Masson et Laurent Delmas pour l'émission On aura tout vu autour du film Borgo ce samedi.